Johan, si tu peux, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou est-ce qu'on peut passer à Alias qui voulait parler, nous parler de son projet de convertir Tigre Volant en licence Creative Commons? Enfin, c'est plus qu'un projet puisque c'est déjà une réalité, mais.
Non, non, pas de problème. Vas-y, Alias.
Ok, merci. Oui, donc, alors Tigre Volant, c'est un jeu de rôle que j'ai créé il y a très longtemps, qui a connu une première édition en amateur dans les débuts des années 90, ou des années 90, comme on dit en là par chez moi, et qui ensuite, en 2006, a connu une édition professionnelle. Elle a été publiée chez 2D Sans Face, donc ça ressemble à ça. Mon beau bouquin. Et
Ah, t'as prévu le visuel, c'est fort ça,
ah
Alias.
oui, carrément,
On
hein,
sent le communicant.
on sent le pro quand même, hein, n'est-ce pas? En 2014, je suis arrivé un petit peu au bout de la gamme, c'est-à-dire j'ai publié ce que je voulais publier, et puis ma foi, c'est pas un jeu qui a super bien fonctionné. Au bout d'un moment, on a décidé d'arrêter les frais avec l'éditeur de 2D Sans Face. Du coup, moi, ça faisait déjà un petit moment que je commençais à réfléchir à publier en Creative Commons. J'avais déjà publié des trucs, mon blog, j'avais passé en licence Creative Commons, plus par, on va dire, par esprit fondeur qu'autre chose. Et puis ensuite, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, le jeu de rôle, c'est assez le média pratique pour faire du Creative Commons. Alors pour ceux qui connaissent pas trop le jeu de rôle, j'ai quand même rapidement expliqué. Donc l'idée c'est qu'on va jouer un jeu dans un univers, la plupart du temps dans un univers donné, et que en fait, ce qui se passe c'est que la plupart du temps, lorsqu'on fait ce genre de choses, on va créer des parties de l'univers qui n'existent pas. On va commencer à développer cet univers au-delà de ce qu'a sans doute envisagé le créateur. Et ma foi, la question c'est comment est-ce qu'ensuite on va refaire remonter toutes ces informations au créateur et comment est-ce qu'on peut contribuer à un univers qui existe déjà, qui a peut-être pas mal de fans, avec des contributions de fans en fait. Le scénario de jeu de rôle, fondamentalement, c'est de rajouter, qu'on consiste souvent à rajouter du contexte à un contexte qui existe déjà. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, Tigre Volant, je vais le libérer, je vais le passer en licence Creative Commons. J'ai décidé de faire du Creative Commons partage dans les mêmes conditions parce que j'ai envie aussi que ça devienne un petit peu viral de ce point de vue-là, c'est-à-dire si d'autres personnes veulent contribuer à l'univers, j'aimerais bien qu'ils contribuent aussi sous la même licence de façon à ce que d'autres puissent contribuer aux contributions.
Attends, si
J'ai plein de...
excuse-moi Alias, si tu permets Creative Commons partage dans les mêmes conditions, c'est pas compréhensible dans l'état en fait, c'est quoi les conditions?
Alors, ça signifie que si quelqu'un veut contribuer à l'univers, il peut publier, il est plus ou moins, quand il publie, il va publier aussi sous licence Creative Commons, partageant les mêmes conditions. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas, à moins que j'ai vraiment totalement raté le truc, mais...
Je peux juste, en fait, la clause de partage à l'identique,
Oui.
elle dit que quand vous faites une création dérivée à partir d'une première création, celle que vous avez produite vous, vous devez la remettre à disposition dans les mêmes conditions que la licence originale.
Oui,
Donc du
c'est
coup, si la licence, si l'œuvre originale était ouverte, toutes les œuvres qui vont être créées comme des dérivations à partir de cette première œuvre devront elles aussi être ouvertes. Et c'est ce qu'on appelle l'effet viral ou la contamination des licences, quoi.
Voilà, j'ai peut-être mal expliqué, mais c'est comme ça que je l'avais compris.
Non mais en fait comment? Parce que ma question elle était la suivante. C'est que si tu mets juste le logo CC Creative Commons et puis le logo je crois que c'est SA hein, partage à
Oui, c'est
l'identique
ça.
qu'est-ce que moi je dois comprendre? Ça veut dire est-ce que je suis obligé de te créditer? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une paternité derrière?
Le bail est fait quasiment partie de toutes les licences CC.
Donc c'est une CC by SA.
C'est ça. Je ne crois pas
Et
qu'il existe une CC SA sans bail.
ah, je suis pas sûr.
Non.
Lionel, je sais pas ce que t'en penses.
Non, non, c'est pas possible en fait.
Il y a
C'est
forcément du
comme
bail.
des briques qui se rajoutent, la brique minimale. Enfin bon, il y a une licence qui s'appelle CC0 qui fait sauter même le bail. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser sans même créditer l'auteur. Moi, c'est celle que j'utilise sur mon blog. Il n'y a aucune condition imposée. Bon, ce qui
Mais elle fait
pose quelques
sauter toutes les conditions en
soucis
fait.
avec le droit français. Mais sinon, à partir du bail, on rajoute une autre brique, ça va être le SA. Et donc, du coup, ça fait bail SA, paternité et partage des conditions à l'identique.
Voilà, mais le CC0, en fait, elle fait sauter toutes les conditions. C'est quasiment du domaine public.
Ouais. Tout à fait.
Et est-ce qu'il y a un NC sur ta licence usage non commercial?
Non, justement, bon, ça c'est un petit peu un clin d'œil que j'ai fait, où en disant que à partir du moment où vous arrivez à faire du pognon avec mon jeu, c'est que vous êtes plus doué que moi, félicitations. parce que moi j'y suis pas arrivé, donc fondamentalement, voilà. J'ai pas voulu justement mettre de licence commerciale en permettant aux gens, si ça les amuse, de effectivement de publier de vendre leur publication, pourquoi pas. Moi ça ne me dérange pas. Alors. Bon, donc là, c'est un petit peu là où j'en suis. Maintenant, je suis en train de libérer les autres. J'ai déjà libéré le livre de base. J'ai déjà libéré un premier supplément qui était le livret qui se trouvait dans l'écran, qui contenait quelques aides de jeu et puis une sorte de grand synopsis de scénario. Et là, je suis en train de libérer le reste de la gamme qui va consister en trois petits suppléments contexte plus scénario. Et un dernier supplément qui est en fait une campagne, donc une grande suite de scénarios qui est la dernière publiée en 2014. Donc ça, je pense, ça va m'occuper jusqu'à la fin de l'année. Le truc intéressant, c'est qu'un certain nombre des choses avaient été écrites par d'autres personnes que moi, et donc j'ai dû contacter ces auteurs pour leur demander s'ils étaient d'accord de jouer le jeu. Tous ont répondu, enfin à part eux, un malheureusement qui est décédé entre-temps. Tous ont répondu par la positive et j'ai bon espoir d'arriver à contacter les parents du dernier pour avoir un accord formel. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à partir de là.
Moi j'en aurais une. Oui. Tu as dit que ton jeu a été publié de manière professionnelle, édité quoi, par un éditeur en fait.
Tout à fait.
Et du coup, comment tu as fait vis-à-vis de l'éditeur? Parce que quand un auteur se fait éditer, il peut arriver qu'il cède ses droits à l'éditeur. Voilà. Du coup, ça peut bloquer lui dans sa possibilité de rediffuser son œuvre et ça peut le bloquer aussi pour mettre une licence libre sur son œuvre. Du coup, d'accord. Est-ce que toi, tu as pu retourner voir l'éditeur, t'as arrangé avec lui?
Alors, bon, effectivement, c'est le cas, mais la chose était assez facile parce que l'éditeur par lequel je suis passé pour éditer Tigre Volant, pour publier Tigre Volant, c'est 2D Sans Face, c'est une société coopérative qui est basée à Lausanne, en Suisse, dont je suis membre coopérateur. Donc, à partir de là, on est en grosso modo, on est une bande de potes qui a décidé de monter une maison d'édition et qui, pour cela, a pris un petit peu la structure la moins contraignante qu'on avait trouvée, qui n'est pas si contraignante que ça, mais enfin, pas si non contraignante que ça, mais quand même. Et à partir de là, quand je suis venu en l'exposant le projet de sortir sous licence Creative Commons, eh ben, ça n'a pas posé de problème outre mesure. On a dit, OK, bon, de toute façon, la gamme, on avait plus ou moins décidé déjà d'arrêter la gamme. Donc, il n'y avait pas réellement de raison de continuer à verrouiller ça. La seule différence qu'il y a entre les éditions qui ont été publiées par Des Sans Face et les éditions que je publie moi sous licence Creative Commons, c'est que les illustrations, la plupart des illustrations n'y figurent pas, puisque il aurait fallu que je m'arrange avec tous les illustrateurs et j'ai préféré laisser tomber. En fait, il y a juste une des illustratrices qui a décidé de jouer le jeu aussi. Donc, ces illustrations à elle sont sous licence Creative Commons non commerciale, par contre. Donc, il y a une partie des ouvrages qui sont sous licence. Tout ce qui est texte, tout ce que j'ai écrit moi, ou qui a été écrit par d'autres personnes, c'est licence Creative Commons, partage à l'identique. Et tout ce qui est illustration, donc les rares illustrations qui restent, sont partage non commercial.
D'accord. Il y a une question que j'aimerais te poser. Mm-hmm. C'est quelle réaction cela a fait? Est-ce que tu as accueilli des contributions? Quelles ont été les réactions des gens qui possédaient les livres, qui jouaient? Et est-ce que tu as accueilli des contributions ou est-ce que c'est pas venu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce que ça a changé pour toi?
On va dire, je vais être très honnête, ça a rien changé.
D'accord.
Mais bon, comme je disais, Tigre Volant est un jeu qui n'a pas vraiment trouvé son public, ou peut-être que s'il l'a trouvé, mais il était bien moindre que ce que je pensais au départ. Pour donner un ordre d'idée, on avait imprimé du livre de base environ 2500 exemplaires et on en a vendu un millier, ce qui n'est pas énorme. Alors, au niveau des réactions, la plupart des réactions que j'ai eues étaient plutôt positives. Ils ont plutôt bien accueilli le fait que le jeu soit libéré. Maintenant, au niveau des contributions, non, ça n'a rien amené. le fait est que dans le jeu de rôle, c'est un petit peu comme ça que les choses fonctionnent, même si on n'a pas de licence Creative Commons à la base. Les gens vont écrire des scénarios, des gens vont écrire des aides de jeu. La seule chose que j'ai faite, c'est en posant la licence Creative Commons sur mon jeu, je l'ai officialisé, en fait, en quelque sorte. Mais voilà.
Ouais, parce que je réfléchis à quelque chose, mais en fait, imaginons, moi je me souviens, j'étais un peu rôliste quand j'étais il y a quelques années. Donc en fait, quand Casus Belli publiait des scénarios pour des jeux, en fait, c'était de la contrefaçon.
Pas vraiment. Vous
reprenez l'univers, c'était qu'il créait des œuvres dérivées.
Il créait des œuvres dérivées, mais est-ce qu'on peut vraiment parler?
Donc en fait, il y avait une sorte de coutume ou de convention dans le domaine du jeu de rôle qui admettait qu'on puisse le faire sans que ça entraîne de poursuite. Mais si on applique les règles à la lettre du droit d'auteur, je pense qu'ils étaient contrefacteurs, en fait.
Si je peux dire un mot là-dessus, le jeu de rôle, c'est particulier parce que c'est particulier, ça me semble justement un bon sujet, une bonne rencontre, toute cette histoire de libre et de propriété intellectuelle, jeu de rôle, parce que faire une partie de jeu de rôle, c'est créer une œuvre dérivée.
Ben oui, c'est ça.
D'accord. Complètement.
C'est ce qu'on fait autour d'une table. On crée une œuvre dérivée, on a des auteurs initiaux qui ont décrit un univers, des règles, qui ont mis tout ça dans un beau bouquin qui est sous copyright, et puis on va s'installer autour de la table, et puis on va s'en inspirer pour créer cette œuvre. Et évidemment, il y a un autre cercle. Enfin, il y a tout le cercle des gens qui jouent. Salut le chat.
Alias, montre encore une fois qu'il est un grand communicant puisqu'il a même prévu un petit chat.
Oui, qui vient en guest.
Là, je pense que la visibilité du podcast va monter en flèche. Ah mince, le chat a disparu.
Forcément. Elle n'est pas contente, elle n'aime pas qu'on la prenne. C'est une princesse.
Je finis simplement avec cette idée qu'en fait, il y a... En jeu de rôle, on a habituellement trois cercles. Le cercle des auteurs, hein, ceux qui ont leur nom, qui sont crédités, qui sont les auteurs des œuvres initiales, et puis des suppléments, bon, ça peut être des gamins, il peut y avoir plein d'auteurs, mais il y a quelque chose d'officiel. Puis il y a le cercle immense, enfin qu'on espère immense, de tous les joueurs. Et puis il y a le cercle de tous ceux qui vont se mettre à contribuer. En écrivant des choses qui vont être publiées sur leur blog, qui vont être publiées sur des sites comme la Scénariothèque, qui est un gros site de partage de ressources, qui sont des ressources amateurs, qui sont des compléments, donc des œuvres dérivées.
Si tu me permets, c'est pas forcément amateur, parce que sur des sites comme la Scénariothèque ou sur Tentacule.net, il y a aussi pas mal de vieux scénarios, soit des scénarios, principalement des scénarios et des magazines, Casus Belli, Dragon Radio et tout, et en fait, il y a aussi une sorte de culture, j'irais entre guillemets, de l'abandonware, qui est assez présente, quoi.
Ouais, on trouve toute cette problématique de la mémoire, en fait, de dire, voilà, quelque chose qui a été publié dans un journal, le journal est plus en vente. Est-ce qu'on a envie que ce scénario qui était écrit dedans soit à jamais inaccessible? Ben non.
C'est d'autant plus marrant que le jeu de rôle, c'est une littérature sans bibliothèque. Il n'y a pas de... Enfin, là, ils vont en parler... Enfin, je crois qu'ils vont en parler dans les journées d'études du jeu de rôle qui auront lieu le 12 juin. Et en fait, la problématique du jeu de rôle, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas de musée du jeu de rôle, il n'y a pas de bibliothèque qui centralise des ouvrages de jeu de rôle. Donc, effectivement, la mémoire... c'est un loisir dont la sauvegarde de la mémoire est un vrai enjeu, en fait. Contrairement, si t'es à la SF, le polar, enfin d'autres domaines de la littérature, il y a des conservatoires, il y a des bibliothèques, il y a des musées, ça n'existe pas encore en matière de jeux de rôle, alors que c'est, il y a un nombre déjà de bouquins assez impressionnant de sorties, quoi.
Il y a du jeu de rôle en bibliothèque, hein. Ça existe, en tout cas en Suisse, je connais en tout cas un cas à la Chaux-de-Fonds, mais c'est pas le seul, il me semble qu'à Lausanne il y a ça aussi.
Alors, tu vas voir combien d'ouvrages?
Bonne question, faudrait poser la question au... J'ai vu le rayon, c'est quand même assez conséquent, mais c'est vrai que c'est loin d'être la totalité de tout ce qui a jamais été publié. Mais il y a quand même un effort dans certaines bibliothèques en Suisse, en tout cas, pour conserver et pour mettre le jeu de rôle à disposition des lecteurs.
Plus de 10 000 ouvrages sont référencés par le GROG, qui est une encyclopédie en ligne des jeux de rôle.
Et peut-être du coup ça me permet d'enchaîner sur un truc qui est assez intéressant en matière de jeu de rôle, c'est la licence OGL. Alors, il me semble dire qu'il y en avait un, qu'il y en avait un dans un autre truc qui avait envie d'en parler. Alors, soit j'en parle, soit pas quelqu'un d'autre, n'importe.
Bah, moi, je l'avais j'avais noté cette initiative-là. Et j'avoue que si vous en savez un peu plus, ça m'intéresse parce que si j'ai bien compris, donc c'est un système de jeu en fait. C'est une licence qui porte sur des systèmes de jeu et pas sur les univers.
En fait, ça part de Donjons et Dragons. Donc Donjons et Dragons, bon, c'est l'ancêtre, c'est un des premiers jeux de rôle sortis, c'est sans doute le plus connu, et il a connu, et là on en est à la 5e édition, mais après je pense que en fait il y en a davantage parce que il y a certaines éditions ont eu plusieurs avatars, quoi. Donc on va dire que grosso modo il y a eu, on va dire à peu près une dizaine ou une quinzaine d'éditions différentes, hein, de Donjons et Dragons, de versions différentes. Et à un moment, Wizards of the Coast, qui était la société qui possédait les droits sur le jeu, a publié effectivement la licence OGL, qui était une émulation de leur édition 3.5. C'est-à-dire que en fait, l'édition 3.5, en quelque sorte, elle est libre. Ce qui n'était pas le cas des éditions précédentes, c'est-à-dire les éditions qu'on appelle Original Donjons et Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, et puis Advanced Donjons et Dragons 2. Et en fait, cette licence OGL, c'était, je pense qu'au départ, c'était une volonté, ça partait, je pense, d'une certaine volonté d'hégémonie de la part de Wizards of the Coast. C'est-à-dire que du coup, il y a des gens qui ont produit des suppléments pour qui était compatible avec la gamme Donjons et Dragons, donc en quelque sorte ça a amélioré la durée de vie de Donjons et Dragons. Il y a aussi en fait tout simplement beaucoup de jeux qui sont sortis, alors pour le meilleur et pour le pire, hein. Il y a eu ce qu'on appelle à l'époque la déferlante des 20 dans les années 90-2000, où il y avait tout un tas de jeux sur tout un tas de sujets qui sortaient motorisés avec le système de Donjons et Dragons, quoi, qui des fois n'avait que très peu à voir avec le principe d'incarner des guerriers qui vont dans des donjons pour tuer des monstres. Et en fait, cette licence OGL, elle a connu dans les années 2000-2010, elle a connu une utilisation assez un petit peu contournée, mais assez maligne en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient pouvoir rejouer aux premières éditions de Donjons et Dragons, qui ne sont toujours pas éditées, hein. Je me demande s'il n'y a pas eu un projet de ressortir Original Dungeons and Dragons, mais je suis pas sûr. Enfin bon, faut considérer que c'est pas accessible. Et en fait, les gens sont basés sur la licence OGL et ils ont fait une sorte de rétro-engineering, quoi. C'est-à-dire, on utilise la licence OGL et on s'en sert pour entre guillemets, republier Donjons et Dragons. Sauf qu'on republie pas Donjons et Dragons. Quand je dis Donjons et Dragons, c'est la première édition, quoi. On la republie pas verbatim, en fait, on republie les mécanismes. C'est-à-dire le fait qu'il y ait, il y a 6 caractéristiques qui sont graduées de 1 à 18. Il y a, si on veut toucher l'adversaire, il faut faire tel score et tout. Donc, grosso modo, les tableaux, les chiffres, tout ça n'est pas protégeable par le droit d'auteur et on utilise la licence OGL en fait pour récupérer des habillages comme les caractéristiques qui s'appellent la dex, la dextérité, la force, la sagesse. Bah, ça c'est présent dans l'OGL. Donc en fait il y a un montage qui est, on va utiliser le vocabulaire de l'OGL, on va utiliser en quelque sorte la numérologie, c'est-à-dire toutes les mécaniques purement chiffrées, purement mathématiques qui sont dans la première édition. Et éventuellement, on va rajouter des textes qui sont des paraphrasages du texte originel. C'est pas le vrai texte, mais grosso modo, on raconte la même chose, mais en l'écrivant de façon différente. Et donc, ça a amené au premier ce qu'on appelle les rétroclones. Il y a un article que je mettrai, il y a un article excellent de Philippe Trummer qui explique ça bien mieux que je ne le fais. Mais grosso modo, il y a des premiers jeux qui sont sortis, je pense notamment à Swords and Wizardry, qui sont en fait des décalques plus ou moins fidèles de Donjons et Dragons première édition, quoi. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ça s'est pas arrêté à la republication un petit peu détournée en fait des premières éditions de Donjons et Dragons. Ça s'est ensuite poursuivi avec des réinterprétations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit « Ok, on prend la première édition de Donjons et Dragons Et en fait, on continue à développer, à faire du game design, à innover en fait, mais en partant de cette première édition. C'est-à-dire, on fait une innovation du start from scratch quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire, on oublie, on essaie de se mettre dans la peau de Gary Gygax dans les années 70. Allez, ça y est, j'ai sorti la première édition de Donjons et Dragons. Bah, ça va être quoi la deuxième édition? Comment je vais faire développer le truc? Il y a par exemple Mazes and Minotaurs. Qui est en fait Donjons et Dragons, mais on remplace le bestiaire d'inspiration Sword and Sorcery par un bestiaire d'inspiration mythologique avec des minotaures et compagnie. Et en fait, on a aujourd'hui, donc ça a donné naissance à un mouvement qui s'appelle l'Old School Renaissance, qui s'appuie toujours sur les licences OGL, hein, c'est toujours le fondement juridique du truc, hein, et qui est d'une créativité absolument dingue. Et on a des choses qui sont des clins d'œil en fait aux productions rôlistiques des années 70-80, mais qui sont aussi des véritables innovations en elles-mêmes quoi. On prend un jeu comme Lamentation of the Flame Princess, il y a tout un tas de créativité qui a rien à voir avec les premières éditions quoi. Il y a tout un tas d'apports quoi. Donc l'idée c'est que souvent on garde l'esprit, on change la lettre. Et on utilise les outils juridiques qu'on a à notre disposition pour permettre à des choses qui étaient disparues de connaître une seconde vie quoi.
Oh, c'est aussi l'idée de... Pardon. Vas-y Lionel.
Non, je me demandais, dans l'intention originale de Wizard of the Coast, la licence elle portait que sur le système de jeu ou aussi sur l'univers
Que le système.
Que le système. Et en fait, il y a l'idée que tu peux pas, en fait, en théorie, tu peux pas protéger des idées, quoi.
Oui, c'est ça qui est très 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 bizarre quelque part, parce que c'est à se demander si cette licence, elle a vraiment une validité.
Elle est, ouais, effectivement, c'est une grosse question.
Il y a une règle qui dit qu'il y a une séparation entre la protection des idées et de l'expression des idées, et on considère que tout ce qui est recette, procédé pour obtenir un résultat, est pas protégeable. Par exemple, les recettes de cuisine sont pas protégeables. La formule d'un parfum, c'est pas protégeable. Et les règles d'un jeu, normalement, elles sont pas protégeables en elles-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que l'univers qui se rajoute au jeu, lui, il est protégeable. Hein. Les personnages, l'histoire, le monde, ça, c'est protégeable. Mais normalement, les règles et les mécanismes, c'est très difficilement protégeable par le droit d'auteur. Peut-être que les choses sont différentes aux États-Unis.
Peut-être, et peut-être aussi que cette licence, si tu veux, elle donne une sorte de légitimité quand même, de légitimité à la démarche, quoi, qui lui a permis sa vitalité. Oui, Stéphane, on t'écoute.
Ouais. Je suis pas spécialiste du sujet, mais je me posais la question, peut-être savez-vous, est-ce que des choses qui sont un petit peu à la limite entre le système de jeu et qui a pas l'air protégeable comme ça, et la description de l'univers, telles que des listes de sorts ou des listes de monstres, eux ne sont pas les véritables sujets de ces rétroclones et de la licence initiale.
C'est
et du
possible,
coup,
ouais.
Ce qui est repris dans les rétroclones.
Ce qu'on voit à une firme comme Games Workshop, par exemple, une de ses principales manœuvres en termes de propriété, c'est de protéger des termes en fait. Par exemple, Space Marine, Orc avec un K, tu peux pas l'utiliser si tu veux, sinon tu te prends un procès, quoi. Donc effectivement, il y a les mots, dès qu'il y a un terme un petit peu technique, par exemple, tout simplement dans Donjons et Dragons, il y a les Halflings, qui sont en fait une version des Hobbits, enfin les Halflings. Si tu veux utiliser le terme Halfling, t'es obligé de utiliser la licence OGL, quoi.
Bon, faut peut-être rappeler aussi que TSR, donc le créateur originel de Donjons et Dragons, s'est fait sérieusement taper sur les doigts par le Tolkien Estate pour l'utilisation du mot Hobbit.
Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont finalement viré pour le remplacer par Halfling, ouais. Il y avait des notions de droit à ce niveau, ouais. Est-ce que vous m'autorisez à embrayer sur mon propre sujet, qui était de toute façon une conclusion d'un peu tout ça? Oui. Donc, on va rester dans le jeu de rôle, hein, on y est bien. donc moi, je développe un univers de jeu de rôle qui s'appelle Milvaux. Bon, pour faire ultra simple, c'est l'Europe dans le futur, envahie par la forêt, avec diverses caractéristiques, mais grosso modo, c'est du post-apocalyptique forestier. Voilà. Là actuellement, j'ai sorti 3 ou 4 bouquins dans cet univers, 3 ou 4 bouquins de jeux. J'en ai entre 5 à 10 en projet, quoi. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, en quelque sorte, attention, à ma très modeste échelle, hein, parce qu'on ne peut pas dire que je suis un auteur très lu ni très vendu, hein, c'est pas le débat. À ma très modeste échelle, j'étais en train de créer un mythe, hein, c'est-à-dire que j'avais un corpus d'univers avec des interprétations sur certains phénomènes qui pouvaient varier en fait d'un livre à l'autre, voire même d'un paragraphe à l'autre, avec notamment dans le même univers plusieurs jeux qui apportaient un angle de vue qui pouvait être très différent. Je me suis rendu compte que mon univers pouvait être facilement compatible avec tout un tas d'autres systèmes de jeux. Alors déjà, je l'ai pas encore fait, mais j'ai un projet. C'est justement de faire une tournée de démonstration de parties jouées dans l'univers, mais avec d'autres systèmes de jeu que ceux que j'ai écrits. Ce que j'ai pu aussi voir, j'ai de la chance d'avoir une petite communauté qui maîtrise le jeu et qui publie en fait des comptes rendus de parties ou qui échange avec moi sur l'univers. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir que les gens avaient une vision de mon univers qui était différente de la mienne, qui s'est réappropriée. En fait, ils prenaient les fondamentaux, bah c'est l'Europe dans le futur, c'est forestier, il y a de la magie et du post-apocalyptique, et ils faisaient leur sauce à eux qui était très très différente. Et je me suis dit que là il y avait tous les éléments d'un mythe. Moi-même en fait j'utilise des ingrédients qui sont mythologiques, puisque notamment j'utilise le mythe de Cthulhu de Lovecraft, qui pour moi est un mythe moderne dans le sens où dès le départ, il a été l'œuvre de plusieurs auteurs, hein, puisque Lovecraft, de son vivant, était très libertaire en matière de droit d'auteur, et il y avait pas mal de, il laissait un peu qui voulait écrire dans son univers. Ça s'est considérablement fermé d'ailleurs à sa mort, en fait, à partir du moment où Derleth a repris la gestion des droits de Lovecraft. Et ça s'est considérablement réouvert en 2007, quand 70 ans après la mort de Lovecraft, où en fait là, si vous regardez un petit peu les publications liées au mythe de Cthulhu ont considérablement explosé à partir de 2007 en fait. Et notamment avant 2007, par exemple, le jeu de rôle, il y a un seul jeu de rôle qui utilise le mythe de Cthulhu, c'est l'Appel de Cthulhu. Pourquoi ils sont les seuls? Parce qu'ils sont les seuls à avoir payé, à verser des droits aux exécuteurs testamentaires de Lovecraft.
Il y a d'ailleurs une anecdote là-dessus. Donjons et Dragons avait sorti, enfin Advanced Dungeons & Dragons avait sorti une édition du Deities and Demigods qui incluait les dieux cthuliens.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Il avait les caractéristiques de Cthulhu si jamais on voulait lui casser la gueule. Ça a disparu de la deuxième édition, mais très vite, hein. Je me demande s'ils ont même pas retiré la première édition des rayons avant la fin.
Et comment? Et on voit donc, en fait, de 2007 à aujourd'hui, 2015, des publications qui utilisent le mythe de Cthulhu, que ce soit en jeu de rôle ou en littérature. Je pense notamment à The Laundry, là, qui est une série de romans qui reprennent le mythe de Cthulhu. A considérablement explosé, quoi. Enfin, en jeu de rôle, il y a un bouquin par mois qui sort sur le mythe de Cthulhu, quoi. C'est à peu près ça, quoi, en termes de rythme de parution, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, moi, je veux ça, en fait. Pour mon univers, je veux ça. C'est-à-dire que je veux pas être. Je veux que le contrôle de Milvo m'échappe. C'était vraiment mon intention, en fait. Alors c'est sans doute très très mégalomane, hein. Mais l'idée en fait qu'il y ait des gens qui continuent à publier des choses dans cet univers, d'ailleurs pas forcément pour le jeu de rôle, hein, ça pouvait être pour d'autres médias, et qui puissent le faire sans mon contrôle, sans avoir à ce que je valide leur création, soit d'un point de vue cohérence, soit d'un point de vue purement respect du droit d'auteur. Ça m'intéressait en fait. Et je pense que des choses pour moi, un mythe, c'est quelque chose qui est vivace, hein, qui résiste à l'épreuve du temps. Bon, bah, on voit ça pour la mythologie grecque et indienne, on voit ça pour le mythe du roi de la table ronde aussi, ou des choses plus proches de nous comme le mythe de Cthulhu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un mythe, c'est un vernis sur lequel on peut, en fait, c'est une sorte de high concept sur lequel on peut greffer tout un tas d'interprétations. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait vraiment, c'est que les gens puissent utiliser cet univers de Milvaux, l'explorer un petit peu comme ils voulaient, et que voilà, que je sois moi-même surpris par ce qu'ils allaient en faire, quoi. Et donc là aujourd'hui, ce que j'écris sur Milvaux est sous licence Creative Commons CC BY NC. Et en fait, là, mon projet, c'est de libérer complètement. C'est-à-dire que de en fait, alors Lionel, tu vas me dire que il me semble que je peux pas renoncer en France, je peux pas renoncer à mon droit d'auteur.
Tu peux pas renoncer à ton droit de paternité, mais ça se discute, hein. C'est-à-dire qu'il y a des discussions sur la portée de la licence CC0, c'est-à-dire celle qui met volontairement dans le domaine public une création. Parce qu'en France, il y a une règle qui dit qu'on n'a pas le droit que le droit moral est inaliénable, et notamment le droit de paternité. Et donc, du coup, on ne pourrait pas valablement renoncer à cette paternité. Mais ça a quand même symboliquement une portée intéressante, parce que. Si tu veux, moi je le vois, je l'ai fait pour mon blog. Hein, donc symboliquement, si tu dis que tu vas jusque-là, ça prouve quand même ta volonté de sortir du système complètement. Et la seule chose en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que tu reviennes sur ta décision. Et ça, on pourra pas. Le droit français te permettra un jour, si tu voulais, de revenir sur ta décision et de remettre une CC BY, par exemple. Voilà ce que
Parce que
ça.
si je mets une CC0, en fait, pour le droit français, ça n'a pas de valeur, quoi.
Il faudra l'interpréter comme une CC BY.
Ok.
Parce que la licence CC0 dit l'auteur renonce à ses droits dans la mesure permise par la législation en vigueur. Et donc du coup, la mesure permise par la législation en vigueur en France, c'est jusqu'au droit de paternité.
Et d'ailleurs, je réalise, et là on voit le rapport avec le mythe. Bon, je sais pas si je suis prêt à le faire, hein, mais bon, c'est vrai que là, entre guillemets, mon projet, c'est donc de sortir, de repasser tous mes, tous les textes que j'ai déjà édités. Je vais les repasser sous licence, sous CC0. Sauf que je vais pas labelliser, quoi. Je vais juste écrire, c'est libre, hein. Mais grosso modo, voilà, je vais écrire, c'est dans le domaine public. Avec effectivement les objections juridiques, hein, qu'on peut avoir en droit français. Mais au moins ça donne un message fort aux utilisateurs, quoi, que entre guillemets, bon bah normalement je vous poursuivrai pas si vous reprenez mes choses. Vous n'êtes pas obligé de me créditer. Et pour moi c'est important en fait de renoncer à la paternité, dans le sens où je pense que ça fait partie de la dimension mythologique que je veux donner au projet, en fait. Dans le sens où les auteurs d'un mythe sont en partie anonymes, quoi. Et d'ailleurs, on en revient au fait que si tu veux faire une CC0 qui fonctionne, même avec l'objection du droit français qui est qu'on ne peut pas renoncer à son droit d'auteur, il faut publier de façon anonyme. Alors j'en suis pas là, mais peut-être que ce serait la démarche suivante, en fait, qui serait en fait de publier des textes de Milvaux de façon anonyme pour voilà, de toute façon, pas pouvoir revenir en arrière, parce que c'est vrai que je peux très bien devenir un vieux con dans 5 ans, dans 10 ans, et puis vouloir absolument poursuivre tous ceux qui auraient publié des choses dans l'univers de Milvaux en profitant du fait que j'avais annoncé que c'était en libre.
C'est déjà prévu, hein, le cas des œuvres anonymes. Dans le code de propriété intellectuelle, tu as une partie sur les œuvres anonymes. Donc l'anonymat est un droit de l'auteur. Mais il a le droit de le lever et quand il le lève, il a le droit de récupérer ses droits.
Ouais, du
Donc tu
moment
vois,
que tu
même
arrives à prouver que à ressortir un...
C'est vrai quand même que c'est une vraie question ce que tu poses, parce que moi je m'en étais posé, c'est-à-dire que on dit souvent que le droit d'auteur, c'est le droit des créateurs à contrôler leur œuvre, mais si jamais tu veux abandonner tout contrôle, le système t'oblige quand même à en garder un. Ça qui est, je trouve, assez fascinant, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment sortir du truc, quoi. Mais quand même, moi je considère quand même que symboliquement, l'usage de licence CC0 ou de domaine public volontaire, ça a une portée, hein. Je crois qu'on l'a vu là, depuis qu'on discute, il y a le droit, il y a les licences. Mais il y a aussi une dimension symbolique, l'éthique, les règles de la communauté. Tout ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que le droit et les licences.
Puis il y a une portée sociétale. S'il y a plus, enfin, plus il y a de, plus il y a d'auteurs qui utilisent les licences, et plus, plus la licence elle a une crédibilité sociétale, ouais, et qui peut ensuite, parce que généralement le droit, enfin bon, c'est peut-être utopique ce que je dis, mais le droit est là pour acter des choix de société avec souvent quelques années de retard. Et donc il est possible qu'un jour cette clause saute. S'il y a suffisamment, tout simplement, si c'est rentré dans les mœurs, quoi.
En parlant de portée sociétale, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que plus on parle de Creative Commons, plus on utilise les Creative Commons, plus on se rend compte, en fait, que la question de la propriété, de la paternité, c'est vraiment un truc purement d'ego. Et que quelque part, enfin, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi sur ce point de vue-là, mais là, on parle de... Moi, j'ai gardé quand même une paternité, un petit contrôle sur les trucs que je publie, mais plus on en parle et plus cette histoire de CC0, ça me titille quand même, et je vois en fait où se limite mon intérêt purement égoïste, purement mythomane, enfin mégalomane plutôt, de vouloir quand même avoir la paternité de ce que j'écris. Je sais pas si d'autres personnes ont ressenti ça aussi, mais
après il y a les utilisateurs, enfin on est quand même aussi, les utilisateurs sont souvent attachés aussi à connaître l'auteur, parce que c'est souvent tu vois, bah par exemple c'est souvent une marque, bon bah par exemple je prends le mythe de Cthulhu, bon bah aujourd'hui il y a 10 millions d'auteurs dans le mythe de Cthulhu, et du coup on va s'attacher à des signatures, quoi. On va, ouais, bah je vais pas lire tout ce qui sort sur le mythe de Cthulhu, parce que déjà ça me prendrait une dizaine de vies entières, quoi. Mais du coup je vais lire, bah le mec qui a fait The Laundry, bah je vais lire ce qui sort sur le mythe de Cthulhu, parce que voilà, c'est sa signature, c'est sa patte à lui qui m'intéresse et tout. Donc on est quand même aussi dans une culture de l'auteur, quoi. Il n'y a pas uniquement l'ego, il y a aussi le public qui est quand même jusqu'à dans certains milieux, en tout cas, qui est en demande de ça, quoi.
À ce sujet, je pense que Strauss, il faut quand même mettre un petit bémol sur ce que tu dis à propos de Charles Strauss, qui est donc l'auteur de Laundry, La Laverie en français. Si mes souvenirs sont bons, dans les bouquins, il fait beaucoup d'allusions sur le fait que c'est le mythe de Cthulhu, mais il ne le dit jamais explicitement. Il y a juste dans la novella Equus, où une partie de la novella est une lettre de Lovecraft, où là, il n'y a plus trop de doutes. Mais dans l'absolu, dans le reste de l'œuvre, la paternité avec le mythe de Cthulhu est toujours plus suggérée que réellement explicite.
Mais c'est là où justement on peut parler de mythe. Un mythe, en fait, tu peux parler de mythe aussi quand il est reconnaissable juste par ses marqueurs et par un style, en fait.
Dès que quelqu'un dit tentacule, tout le monde sait de quoi on parle, quoi.
Je prends un jeu de rôle comme Innommable de Christophe Buckley, c'est un jeu de rôle Lovecraftien. Dans le bouquin, il y a aucun élément texte, enfin il y a pas aucun nom de grands anciens, Lovecraft est juste crédité comme inspiration, mais le bouquin est 100% Lovecraftien, parce qu'il y a vraiment tous les marqueurs, l'horreur métaphysique notamment. Et on en vient aussi encore une fois, c'est une problématique de généalogie des idées, quoi. C'est à quel moment l'invention d'un auteur, c'est juste mettre des noms propres et des marques sur quelque chose qui est vieux comme le monde. On voit dans le mythe de Cthulhu, moi personnellement, quand j'écris Millevaux, je me contente en fait de faire un agglomérat de légendes et de tripes autour de la forêt, quoi. Il y a peut-être pas une grande invention, il y a peut-être juste une capacité à agglomérer des choses, quoi. Mais même Lovecraft lui-même, c'était un énorme recycleur, quoi. Il recyclait Mérite, le mec qui a fait Astur, là, le cycle d'Astur. Ah merde, j'ai oublié. Recyclait Poe. Enfin voilà, c'était un énorme recycleur, quoi. Son œuvre entière est un clin d'œil à des auteurs, notamment principalement du 19e, quoi. Ok, je pense que là, on en a fini avec notre première partie qui était assez copieuse, mais ça, je pense que ça, la première partie est toujours copieuse, mais ça nous a permis, à mon sens, de dresser un grand portrait global des grandes problématiques autour de la propriété intellectuelle. J'ose croire que la deuxième partie va être plus rapide.